Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de folie et ça a commencé très tôt cette nuit. C'est justement évidemment la une des grandes gueules du sport dans quelques instants, l'exploit monumental de Gaël Monfils à l'Open d'Australie. Le Français a sorti tôt ce matin l'Américain Taylor Fritz, numéro 4 mondial. Cette victoire est-elle historique? On retrouvera Eric Salio à Melbourne. À 10h, la liste de Fabien Galthié pour le tournoi Destination avec deux revenants, Oscar Jégou et Hugo Radou, qui ont défrayé la chronique l'été dernier. Leur convocation, malaise ou pas malaise, ce sera le bras de fer des GG et ce sera un 2 contre 2. Et puis 11h, John Textor s'attaque au Paris Saint-Germain et à Nasser Al-Khelaifi. C'était l'interview événement sur RMC dans Rotten sans flamme lundi. Croyez-vous à la révolte des présidents? Ce sera notre question. Bref, une émission extrêmement chargée avec une équipe de choc ce matin. Je vous les présente tout de suite. Une grande gueule qui, comme le faux Brad Pitt, il ne ressemble pas du tout à sa photo de profil. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ouais, fais gaffe à ce que je t'arnaque pas de 800 000 balles quand même. Hein.
Oui, bah tu vas courir longtemps à mon avis. 800, tu peux, mais 800 000, ça risque d'être compliqué. Ça va, mon cher Christophe?
Ça va, écoute, ça va. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, non?
Non, ça va. C'est 5 minutes, là, il me perturbe parce que... On commence plus tôt, tu vois.
Ah ben, on commence un peu plus tôt, parce que,
les autres. Tu sais, il y a cette heure-là, telles les machines de précision, je suis réglé à minuit.
Mais oui, mais les auditeurs te réclament. Ouais, alors, bientôt, ce sera à 6h du matin, les grandes gueules du sport. Ouais. C'est pas impossible. Une grande gueule qui, comme le faux Brad Pitt, on l'appelle aussi le brouteur, Denis Charvet. Salut, Denis.
Je peux plus, là.
Ah ben c'est un truc.
Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde?
Ah bah rien du tout.
Rien. C'est pitoyable.
Et ça me va bien. J'ai failli pas l'assumer celle-là. Ouais. Ça va mon cher Denis? T'as
pas calme, ouais. Grande forme.
Ouais. Quel bon fils, tout ça.
C'est qu'on a attaqué la télé sur RMC Story. Je fais un peu de pub pour Moscato Show.
Bah bien sûr, t'as raison.
Au passage.
C'est cartonné cette semaine. Bravo, 15h18h.
Et alors tu reçois des lettres enflammées d'admiratrices depuis que tu passes
à la télé? Non, moi je suis vieux, tu sais, je suis comme toi, j'ai le même âge.
Non. Mais toi t'es beau, c'est ça.
Denis, depuis que vous passez à la télé, je trouve que vous avez pris quand même un peu le melon dans l'équipe, non?
Oui. Oui, surtout Vincent.
Oui, surtout Vincent. Ouais, Vincent, on le connaît, on l'embrasse et on le salue. Une grande gueule qui, comme le faux Brad Pitt, elle a gagné 830 000 euros en carrière. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonjour à tous. Ouais.
C'est fou quand même.
C'est dingue.
J'ai
ça.
Vérifié, c'est exactement c'est le même montant. Est-ce que tu serais pas derrière cette arnaque quand même?
Non.
C'est pas toi?
Non.
Tu serais tombé dans le piège, toi? Tu aurais envoyé des aides à Brad Pitt quand même?
Je crois pas, non.
Non.
Ça va pas, Sarah? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il me semblait avoir vu dans nos différents échanges qu'il n'y avait plus de lancement avec ces petites phrases piquantes. C'était du second degré, en fait.
Oui, merci Sarah, merci de comprendre. Oui, on change des choses dans cette émission, vous verrez à partir de 11h. Mais pas tout, on garde quand même les bonnes vieilles habitudes.
C'est quand même la seule bonne rubrique de l'émission.
Donc, en tout cas, la seule garder. Je me fais plaisir. Et puis, une grande gueule qui, contrairement au faux Brad Pitt, on n'a aucune photo de lui à l'hôpital. Bah, les piqûres, c'est plutôt dans les chambres.
C'est d'une agressivité pour commencer l'année.
C'est gratuit. C'est gratuit.
Il est dans la malveillance d'entrée.
Ça va, mon cher Marc?
Plutôt bien.
Sache que ça me fait très plaisir de te revoir en cette année 2025.
C'est-à-dire qu'il fracasse et derrière, il dit
C'est vrai, oui.
Il se rattrape au
moment. Vous connaissez le management comme ça. Parfois, de vous, la caresse et puis une grande baffe dans la gueule de temps en temps. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous et on a beaucoup de choses à raconter aux auditeurs. Aussi, un jeu à vous faire gagner car, lundi, c'est le Blue Monday. C'est le jour le plus déprimant de l'année. Mais pas sur RMC. Ouais. Sachez que toute la journée de lundi, nous allons vous offrir soit du cash, soit des vacances. C'est vous qui choisirez à gagner 5000 euros, jusqu'à 5000 euros, ou un séjour magnifique à la campagne, à la mer, à la montagne. Bref, quand vous entendrez un top inscription, vous vous inscrivez sur RMC et ça tombera évidemment dans cette émission, même au mois de janvier, même après Noël. On vous gâte sur RMC. Allez, un proverbe australien pour débuter cette émission, cette circonstance évidemment, qui dit « Ne compte pas tes poules avant de leur avoir coupé la tête ».
La une des grandes gueules du sport.
Balle de match pour Gaël Monfils, donc pour se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Open d'Australie. Mène de manche à une face à l'Américain, tête de série numéro 4, 5, 4, 45. Gaël est au service. Bonne première. C'est un ace! C'est un ace extraordinaire! Gaël Monfils, à 38 ans, il se qualifie pour les huitièmes de l'Open d'Australie. Il n'avait plus battu un top 5 en grand chelem depuis 2008. Il restait sur 12 défaites d'affilée face à un top 5 et là, il décroche peut-être là, il décroche, c'est même sur la plus belle victoire de sa carrière en Grand Chelem. Gaël Monfils en 8e de finale de l'Open d'Australie. On le reverra dans 2 jours.
Ah oui, phénoménal, Gaël Monfils. C'était à 7h30 ce matin, cette balle de match. Gaël Monfils qui s'est qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie. Le Français a mangé tout cru le numéro 4 mondial Taylor Fritz en 4-7. Le French vétéran, comme on l'appelle là-bas à Melbourne, a encore frappé à 38 ans. Il devient le deuxième joueur de l'histoire le plus vieux depuis 1991 à se hisser en deuxième finale d'un grand chelem. Il n'avait plus battu, vous l'avez entendu, un top 5 mondial depuis 2008. Cela faisait 8 ans qu'un Français n'avait pas gagné contre un joueur aussi bien classé. La musique qui fout les jetons. Et cette question, cette victoire est-elle historique? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Sarah Pitkowski.
Oui, bien sûr.
Marc Madio.
Non.
Denis Charvet.
Non, bien sûr.
Alors j'ai 3 noms, mais on va être content quand même ce matin avec cette victoire de Gaël Monfils. On va retrouver en direct.
Content, mais les mots ont une valeur. Et...
Ouais, mais voilà, justement,
les mots, alors juste, voilà. Alors juste titre.
Sachez-le, on a déjà échangé depuis 7h du matin et ils sont déjà très chauds sur ce sujet. Eric Salieu est avec nous en direct de Melbourne. Salut Eric.
Salut les rabat-joies.
Salut Eric. Non, déplaise à certains rabat-joies.
Oui, du côté de Sarah, c'est sûr.
Quel match, quelle performance.
Mais ça fait tellement d'années qu'il attend de voir un Français qui gagne. Non,
mais d'habitude, il reprenait déjà l'avion.
C'est oui. D'habitude, il est dans l'avion à ce
moment-là. Il est en France, ce que tu veux dire.
Non, Marc, moi, je fais toujours la finale, tu le sais. Je fais toujours la finale, moi, quoi qu'il arrive.
Enfin, un Français qui fait une finale, c'est Eric Salio avec nous sur RMC. Eric, quelle folie tout de même.
Ouais, parce que franchement, je veux pas dire qu'on s'y attendait pas, mais il nous a livré une sorte de chef-d'œuvre à la fois tactique et physique, parce que Fritz c'est quand même pas n'importe qui. Je sais pas, j'ai l'impression que vous l'ignorez. Il a fait finale à l'US Open, il a fait finale au Masters. C'est un mec qui voulait gagner un chelem, parce que aux States aussi ils attendent un successeur à Roddick. Et là, il a été pris dans les filets de Monfils, qui était dans une forme physique exceptionnelle, qui n'a pas paniqué après la perte du premier set, qui l'a travaillé au corps pour finalement s'imposer, donc 3-6, 7-5, 7-6, 6-4. Donc ouais, du travail d'art quoi. Et on l'a retrouvé en conférence de presse, presque, enfin, il était pas aux anges, quoi, presque sous le choc, parce qu'il manquait de recul. Ce sont les premiers mots qu'il a répété à plusieurs reprises, Gaël Monfils, donc après sa victoire face à Taylor Fritz.
J'ai du mal à avoir du recul, hein. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne victoire parce que je trouve que j'ai bien joué, j'ai réussi à être bien stable tactiquement dans ce que j'ai voulu faire tout le match, donc. J'ai du mal à te la situer vraiment. J'ai trouvé que j'ai bien servi aujourd'hui. C'est pas tous les jours où on arrive, tu sais, à appliquer une tactique. Et même lui, il jouait bien et quand même de continuer. Et tu vois, sur des coups, j'étais courageux. Donc j'étais content, tu vois, d'aller chercher mes lignes, dans le tie-break. Tu vois, je me suis fait un peu plus violence. Ouais, donc j'ai bien verrouillé comme je voulais. J'ai pas surjoué. J'ai réussi à l'emmener là où je voulais, donc tu vois, je suis content, quoi. J'ai réussi en fait à faire ce que je voulais, et c'est pas souvent facile, tu vois. Et là, aujourd'hui, je l'ai fait, donc je suis content. Je suis content d'avoir accompli un gros match, quoi. Tu vois, un gros match, donc je suis content, quoi.
Et c'est pas souvent parce que il y a une stat qui est incroyable. Donc vous parliez, Jean-Christophe parlait de la dernière victoire contre un top 5. C'était donc en 2008 face à David Ferrer. Il restait sur 12 défaites d'affilée face à des top 5 en grand chelem. Alors que sur le circuit principal, il a des stats tout à fait honorables. Il est à 15 victoires pour 57 défaites, donc c'est 20% de réussite. Et sur les grands chelems, c'était 7% de réussite. Donc il y avait une sorte de problème. Et là, il a tout déverrouillé, quoi. C'est fantastique, surtout à 38 ans, quoi. Personne ne l'attend à 38 ans. Mais voilà, c'est peut-être aussi une sorte de relâchement, de détachement par rapport à l'événement. Et puis voilà. Puis maintenant, on veut qu'il aille encore plus loin parce que il est dans une bonne partie de tableau. Il jouera le vainqueur de Shelton Musetti et le match est en train de se jouer. Il y a 2-7 à 1 pour l'Américain actuellement sur le John Cain Arena.
Ouais, on écoutera d'ailleurs Gaël Monfils dans quelques instants sur son prochain match, Shelton ou Musetti. Et puis en quart de finale, si ça se passe bien, ça pourrait être Sonego ou Tienne, pour une place en demi-finale. C'est dire s'il y a un tableau ouvert pour Gaël Monfils et on a encore envie de rêver. Les 9h18, vous écoutez RMC, les 19h18 pour Eric Salieu en direct de Melbourne. Tu restes avec nous pour ce débat. Cette victoire est-elle historique? On vous attend évidemment au 32-16. Vous vous réveillez ce matin. Gaël Monfils est en 8e de finale de l'Open d'Australie. Sarah, on va commencer avec un oui. Pourquoi oui?
Pourquoi oui? Parce que il faut voir le match, il faut pas voir le tournoi dans sa globalité. Gaël, il a 38 ans. On l'appelle le French vétéran. Il y a une semaine, il remportait un tournoi à Auckland. C'est le plus vieux joueur avec le classement ATP qui remporte encore un tournoi. Donc, quand tu vois qu'aujourd'hui, sur cette lancée, il est capable d'aller gagner, d'aller battre le quatrième mondial, et pas un quatrième mondial qui est diminué en jouant un match qui est quasiment parfait du début à la fin. Et c'est un peu ça la difficulté de Gaël tout au long de sa carrière, c'est qu'il nous a fait des prouesses comme ça de temps en temps, des matchs exceptionnels, et puis après il avait du mal à tenir sur le plan physique. Et je pense que cette victoire à l'âge où il a elle est juste fantastique. C'est juste une leçon extraordinaire. Donc je vois juste la performance de ce match-là, et c'est celui-là qu'on va prendre. Mais, et on va pas le mettre dans une hiérarchie du tennis français. Aujourd'hui, cette victoire le fait rentrer dans un cercle très fermé de joueurs exceptionnels, puisque le seul autre joueur qui est allé en deuxième semaine de Grand Chelem à 38 ans, c'est Federer. Voilà, donc ça place un homme. Oui, il a toujours pas gagné de Grand Chelem. Oui, il en gagnera peut-être pas. Mais il rentre dans le cercle fermé de ces joueurs dans la longévité, c'est exceptionnel.
Mais s'il perd le match prochain,
mais c'est pas grave, on s'en fiche.
On sanctionnera plus. Mais non, mais Sarah, la carrière de mon fils, elle est déjà là.
Oui,
on sait déjà. Je veux dire, t'as pas besoin de ce match pour faire référence.
Il rentre dans un cercle encore un peu plus fermé.
Mais pas du tout.
Je viens de te les donner, les deux.
Mais oui, mais ça veut rien dire. Personne s'en souvient. Enfin, je veux dire, on s'en soucie pas.
Tu vas chercher. C'est le plus vieux avoir atteint.
Mais la vérité, c'est que
je veux pas du tout dévaloriser sa performance. Mais quand tu vas chercher l'historique dans les vétérans.
Ce qui me surprend, c'est qu'on est. On est surpris parce qu'il avait 38 ans. Arrêtons avec ça. C'est pas parce qu'il a 38 ans qu'il est pas capable de faire un exploit. C'est la preuve. Donc je veux dire, arrêtons avec l'âge. Tu me dis, ah ouais, c'est à 38 ans, c'est extraordinaire.
Mais oui, il rentre un peu plus dans le cercle des joueurs exceptionnels qui ont une carrière exceptionnelle.
La vérité, c'est qu'il aurait dû faire ça tout le temps.
Donc ça veut dire qu'on va retenir de sa carrière que il a été capable parce qu'il a été performant en étant vieux, ou alors c'est parce qu'il nous a régalé dans
mais les deux matchs. La longévité est ce qu'il est capable de produire encore effectivement à cet âge-là, et l'émotion qu'il est capable de faire. Le match, alors évidemment c'est durant la nuit, je l'ai pas vu, j'ai été revoir plein de points de ce match-là. C'est une démonstration tactique, c'est juste exceptionnel ce qu'il a été capable de faire, mais ce qui me surprend pas, Sarah, je le vois pas.
Oui, il rentre en huitième.
Oui, mais c'est pour ça que je vous dis.
Ce sera un exploit.
Ce match, je parle du match, je parle pas de son chemin dans ce tournoi du Grand Chelem. Ce match, de manière isolée.
Mais il faut rester sur terre.
Mais moi, ce qui me surprend pas, en fait, c'est qu'il ait gagné. La vérité, c'est qu'il aurait dû faire ça toute sa carrière. Mais non, mais j'exagère pas. Ce mec avait le tennis pour être dans les cinq premiers tout le temps. Le talent. Après, c'est ça qui me rend fou, en fait.
Enfin, il fait deux demi-finales de Grand Chelem, dans sa carrière.
Mais on dit pas que c'est un immense champion.
Il est de la génération. Il a l'âge de Nadal et l'âge de Federer.
J'ai encore vu jouer à Roland l'année dernière quand il fait son exploit en 5-7. Je sais plus contre quel joueur. Tu es bouche bée parce que tu dis ce mec, mais comment il est passé à côté. Quand je dis à côté, c'est que la frustration, c'est que ce mec avait tout pour être dans les deux ou trois premiers mondiaux et gagner des grands chelems. Alors après, tu vas pas refaire l'histoire. Tu sais très bien que ça se fait pas comme ça. Mais moi, j'ai un goût d'inachevé avec lui.
Donc, cette victoire ou pas cette victoire, ça change rien de ce que tu penses de Gaël, mon fils.
S'il va plus loin dans le tournoi.
Voilà, s'il est en demi-finale,
aujourd'hui, on est entre sportifs, on s'intéresse à cette situation parce qu'on est entre sportifs. Mais le grand public va commencer à s'intéresser à mon fils.
En quart, demi. Non, mais il a raison,
Mais déjà maintenant, quand tu bats le quatrième mondial.
Il a fait l'équipe il y a deux jours, il me semble, mais bon.
Ouais, effectivement.
L'équipe, il vend du poids du papier, c'est pas pareil.
Non, mais les gars, n'oubliez pas que le mec, il a failli arrêter sa carrière. Il était 394 mondial à un moment. Il était à deux doigts d'arrêter parce qu'il était blessé de partout. Un peu de respect, quoi.
Mais c'est
tout.
Sa carrière, c'est sa vie. Il n'y a pas de problème avec ça. On ne met pas en cause
J'ai l'impression qu'il y a un problème, Denis.
C'est une simple petite victoire.
On relativise la situation.
Ok, il est 9h23.
Ah oui, il a relativisé vachement bien. Hein.
Vous écoutez RMC.
C'est-à-dire que toi, t'es dans le coup, t'es sur le court à Melbourne, tu vis tennis depuis 10 jours.
Excusez-moi de vivre des émotions.
C'est l'histoire qui est en marche, donc on a un peu de mal à se mettre à ton niveau, quoi.
Alors, il est 9h23. Vous écoutez RMC. c'est, vous inquiétez pas, on est sur les arguments. Gaël Monfils vient de signer l'exploit de la nuit, l'exploit de l'Open d'Australie.
Voilà, il a bien résumé, l'exploit de la nuit.
Voilà. Non, mais pas voilà. pour ceux qui sont autour de la table, c'est juste un
on
simple
match. On est très heureux, il a battu en 4-7 Taylor Fritz. Voilà, on est très heureux, on débat sur le côté historique de la victoire, mais on est tous très contents, évidemment, de cette magnifique performance de Gaël Monfils. Christophe, toi qui suis pas mal le tennis, on en a fait beaucoup des débats sur le tennis. Il y avait 3 Français en 8e de finale à Wimbledon il y a quelques mois. Il y en aura 2 cette fois-ci avec Hugo Humbert, on en parlera dans quelques instants. La portée de Gaël Monfils, toi qui l'as suivi tout au long des grandes gueules du sport, je veux dire, on en a fait beaucoup des débats sur les mousquetaires, sur où ils peuvent aller et tout ça. Le voir à 38 ans réussir ça, alors que Eric Salieu a raison. On parlait, vous souvenez pas, il y a quelques années, ses pleurs en conférence de presse, il voulait gagner, puis sa maman lui disait d'arrêter, et puis il avait une nouvelle vie de famille, on sentait Gaël Monfils, il était au fond du trou. Le voir là,
c'est un sacré personnage qui est capable de nous faire vivre et de se faire vivre des émotions incroyables avec des performances hallucinantes. Et on l'a souvent vu quand il arrivait à se qualifier pour des huitièmes, des quarts de finale. On l'a toujours imaginé. Ah là là. Et si enfin c'était son année. Et si enfin il allait en finale. Et si enfin il allait en gagner un. Et puis le problème, c'est que avec Gaël, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que tu peux connaître des moments et sur le terrain, il nous a régalé aujourd'hui. Et puis tu sais pas ce que ça va donner demain. Et voilà,
profitons juste de cette victoire.
Alors d'un autre côté, c'est plutôt sympa. Les mecs qui font que gagner durant toute leur carrière, moi ils m'emmerdent. Au moins avec lui,
t'es tranquille avec le vélo.
Oh,
hein, je suis tranquille.
Ah non, avec le vélo, ça, le Tour de France,
t'es tranquille.
16e de finale, ça correspond à multiplié par 2. J'ai revisé mes tables de multiplication. Ça fait 32 joueurs encore en course.
Oui.
Et là, tu es en train de nous parler d'exploits pour un gars qui a battu un autre joueur, certes 4e mondial.
Qui n'a jamais gagné un grand chelem.
Et il reste 32 mecs en course.
Il va en rester 16. Donc 16.
Donc 16.
C'est quoi la comparaison? C'est quoi la comparaison avec quand on a un Français qui est en train de gagner une étape du Tour de France?
16e du Tour de France.
Non mais, pardon?
Quatrième.
C'est qui le quatrième au rayon
Faites vos comparaisons avec le vélo. Voilà. Je vais aller voir Eric Salieu juste sur ce côté coup d'éclat de Gaël Monfils. T'en as vu des dizaines et des dizaines. Est-ce que il peut encore nous offrir quelques frissons là, notamment le prochain match, soit face à Shelton, soit face à Musetti, ce sera vraisemblablement face à l'Américain qui mène 3-0 dans le quatrième set. Il y a déjà 2-1.
Ouais, Shelton qui mène effectivement 2-1. Ils sont jamais joués avec Shelton, mais je pense que c'est un type de jeu qui va les convenir. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est un bon bourrin américain, ouais. Shelton, qui sert très bien, qui frappe très très fort. Ouais. Mais
il est quel rang mondial, Eric?
Shelton, il est tête de série 21, donc voilà, il doit être 20 ou 21, faut vérifier, mais moi je pense que Gaël, il aura ses chances contre Shelton, donc là effectivement, un quart et un quart contre le vainqueur de Sonny Gauthier. Non, moi je vous le dis franchement, vous allez encore me voir vendredi prochain pour les demi-finales avec Gaël Monfils. Ouais.
Alors en comparaison avec le vélo, c'est un peu comme si David Godu battait Ben O'Connor dans une course.
Il a déjà battu Ben O'Connor.
Bah oui,
Ben O'Connor.
Mais
Godu a fait 4e du Tour de France, il a fait 9e du Tour de France, ça correspond à largement un quart de finale.
Je reste avec vous un instant sur le vélo. OK, après on passera à autre chose, mais est-ce que la victoire de Pinot sur le Tourmalet, est-ce qu'on peut comparer ça avec cette victoire de Gaël Monfils?
Il y a 3 étages d'écart.
Pourquoi
tout simplement parce que le Tour, c'est le Tour. Mon fils, il a gagné cette nuit devant 0,01% de téléspectateurs. Donc comment veux-tu qu'il rentre dans l'histoire avec 0,01% de spectateurs?
Ça, je prends cet argument.
Pinot gagne. Okay. Il y a des millions et des millions de téléspectateurs. Donc on est dans un autre monde.
Allons tous vivre en Australie, t'as bien raison.
C'est Noah qui gagne Roland Garros. Voilà la comparaison.
Voilà.
Non, mais vous jugez d'un exploit en fonction de l'heure à laquelle il est fait.
Allez, 9h28, on va retrouver Eric Salio dans quelques instants.
Non, je ne l'ai pas vu.
En direct de Melbourne. Gaël, mon fils, vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en battant Taylor Fritz. On continue d'en parler dans les grandes gueules du sport. Venez au 32-16, c'est assez animé dans le studio RMC. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
On oublie que les sportifs, ont un cœur d'homme.
Les grandes gueules du sport.
Ouais. Souvent, il y a un cœur de sportif, mais il y a un cœur sportif dans un corps d'homme. Et avant tout, il y a un cœur.
Jean-Christophe Drouet.
Et il a beaucoup de cœur, Gaël, mon fils.
Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la position.
On aime bien.
Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, c'était cette nuit. Il a battu numéro 4 mondial, Taylor Fritz. Oui, Christophe.
Elle aime tellement le cyclisme. Elle a tellement envie que les téléspectateurs français gagnent qu'elle a mis un maillot jaune aujourd'hui.
Non, c'est pour essayer de vous donner de la bonne humeur et du soleil. C'est pour ça. Exactement.
Bravo en tout cas, Gaël, mon fils, qui s'est donc qualifié et qui affrontera soit Ben Shelton, soit Musetti en huitième de finale. Justement, Gaël Monfils était il y a quelques instants au micro d'Eric Salio. Il nous parle de son prochain tour, de son huitième de finale. Le rêve continue.
Non, mais en vrai, Eric, c'est match par match, quoi. Tu vois, tu bats le 4. Là, t'arrives, je crois que je joue Shelton ou Musetti. Donc, bon, encore une fois, tu pars pas favori. Essaie de bien récupérer. Essaie de garder ses sensations. Essaie de bien travailler dessus. En vrai, tu vois, Musetti m'a mis des branlées, tu vois, donc compliqué. Et Shelton, il joue incroyable, quoi. Il est quoi, il est 14e mondial. Donc en vrai, tu vois, je vais kiffer et je vais penser au match plus tard.
On l'adore, Gaël, mon fils, très très bon son. Merci beaucoup, Eric Salio. C'est vrai qu'il
Même pas les classements, Gaël.
Il y va à l'arrache. Mais comment tu l'as ressenti? Parce que c'est vrai que nous, on parle de portée historique. Alors les GG ne sont pas d'accord, et vous avez raison de penser que ça ne l'est peut-être pas pour vous. Mais est-ce que lui, il a conscience de ça ou non? Il est juste en train de kiffer, Gaël, comme d'habitude.
Mais oui, mais il a joué à chaque fois modeste. Tu vois, au début, il était à vous. Ah, j'ai manque de recul. Au fond, lui, il le sait qu'il a fait un truc énorme. D'ailleurs, en conf de presse, en anglais, il a quand même dit, je suis peut-être le meilleur athlète du circuit à 38 ans. Ouais, bon, c'est une jolie phrase, mais non, moi ce qui me frappe, c'est que il a une hygiène de vie fantastique, parce que le tennis, il est violent, Marc Madiot, hein. C'est comme le vélo, ça évolue. Oui. C'est incroyable.
Il mange plus des McDo, porte de Saint-Cloud, c'est terminé.
Tu nous racontes qu'il a une hygiène de vie maintenant à 38 ans, pourquoi il ne l'a pas eu avant?
Mais il l'a toujours eu avant, mais il a eu pas mal de pépins physiques, c'est ça son problème. Et là, il a un nouveau kiné qui lui fait faire des trucs un peu différents, et visiblement, ça fonctionne. Donc, tant mieux.
On a gagné une semaine, quoi.
Ouais,
on va gagner. Donc, on revient la semaine prochaine.
En tennis, quand tu gagnes une semaine, t'as gagné 3 ou 4 jours. Cyril nous appelle au 32-16, il veut participer à notre débat. Salut Cyril.
Bonjour les grandes gueules.
Merci d'être avec nous, Cyril. Bonjour, notre question Cyril. Ce matin, c'était cette victoire est-elle historique? Je rappelle les chiffres si vous venez tout juste de nous rejoindre. Il n'avait plus battu un top 5 mondial depuis 2008. Ça fait 8 ans qu'un Français n'avait pas gagné contre un joueur aussi bien classé. Et c'est la première fois en Grand Chelem, par exemple, que Gaël Monfils bat un top 4 mondial. Donc c'est dire la portée pour lui dans sa carrière de cet événement. Cyril.
On voit être ainsi. Aussi, non, je trouve que c'est pas forcément historique. Je suis d'accord un peu avec l'ensemble de l'équipe, mais c'est surtout ce qui est historique, c'est sa fin de carrière, en fait. Tout ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, moi perso, je l'appréciais particulièrement. J'ai eu la chance de le voir à Roland, et franchement, il est trop fun, il est trop gentil. Enfin, il dégage plein de belles choses. Donc déjà, je suis très content de pouvoir voir qu'il est en train de kiffer, comme il le dit. Et c'est une fin de carrière suite à sa victoire l'autre jour. Parce qu'il a quel âge? J'ai gagné mon fils 38, 39, je dis
38
pas.
38 ans.
Ouais. Et c'est Brisbane qui gagne.
C'est Jean-Michel à peu près. Bon.
Pour ma défense, vous venez de me réveiller. Vous venez de me réveiller. Donc là, je suis un peu dans le mal après une fête.
Un café.
Ouais.
Ah ouais, en plus, ça fait la fiesta.
Un café, un double. Et quoi de mieux que de se faire réveiller avec une victoire de Gaël, mon fils. Oui, bon. Mais en tout cas, t'es très heureux ce matin en te réveillant.
Je suis très heureux en me réveillant, et puis franchement, c'est quelqu'un qu'on aime vraiment tous. Il fait un peu l'unanimité, donc c'est cool. Pourvu que ça compte, pourvu que ça marche pour lui là, et qu'on puisse en profiter toutes et tous en tous les cas.
Sarah, c'est vrai que on a envie d'en profiter de Gaël Monfils. Ça va s'arrêter à un moment donné. Mais sur ce tournoi, il a déjà fait, je le disais, deux demi-finales de Grand Chelem. Il a déjà fait deux quarts de finale à l'Open d'Australie. Est-ce qu'il peut viser encore haut? Ou franchement, il faut pas trop s'enflammer. Et lui-même le dit, on prend les matchs les uns après les autres. Alors que nous, là, tout de suite, là, maintenant, enfin, moi, j'ai envie de m'enflammer, là.
Oui, mais c'est normal d'avoir envie de s'enflammer. Mais quand t'es joueur de tennis, il y a une chose à laquelle tu dois absolument te conditionner, c'est effectivement match après match. Si tu commences à te projeter, ça devient dangereux, ça devient très dangereux. Donc, il peut aller plus loin parce que le tableau, comme le disait Eric, entre Shelton et Musetti, il y a une place à prendre. Le match d'après, effectivement, il y a de la place, mais tu sais pas comment il va récupérer, à quelle heure ils vont le faire jouer. Donc en fait, il y a encore pas mal d'incertitudes. Et ce que disait notre auditeur, en fait, c'est sa fin de carrière qui est historique. Je pense qu'on est plus dans le vrai. C'est cette fin de carrière qui est juste extraordinaire, de découvrir un joueur qui, pendant tout au long de sa carrière, avait des blocages émotionnels et physiques. Et en fait, quand ces deux choses étaient combinées et qu'on avait tellement d'attentes pour lui, en fait, on était souvent dans le déceptif. C'est-à-dire qu'à Roland-Garros, on pensait tellement qu'il allait faire quelque chose. Il pouvait faire des saisons formidables sur terre battue. Il y avait une telle attente du public français, et il n'arrivait pas à supporter ces attentes. Et là, on a l'impression que finalement, c'est une toile cirée, ça glisse. Sa carrière, elle est derrière lui. Tout est bonus. Et d'ailleurs, la manière dont il termine ce match montre qu'il n'a plus cette retenue. C'est un joueur qui est sur la défensive, qui défend remarquablement bien. Mais tu gagnes pas un match en défendant. Tu gagnes un match parce que tu vas aller chercher quelque chose. Et là, les derniers points, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai envie d'être surprise et je pense qu'on peut l'être.
Alors, on va pas être dans le déceptif. C'est vrai, quand il y a un coup d'éclat, parfois, c'est arrivé dans le cyclisme, pour reprendre tout à l'heure votre comparaison. Mais des coups d'éclat sans lendemain, c'est arrivé aussi dans le tennis. Mais c'est clairement. Est-ce que là, Eric, quand on voit le tableau, quand même le tableau de Gaël Monfils, on se dit une demi-finale, maintenant, c'est plus impossible.
Oui, mais là vous allez dire que je m'emballe, mais c'est vrai qu'il est dans la bonne partie de tableau, puisque
c'est bien français.
C'est la partie de tableau où il y avait Fritz, Rublev, Medvedev, Tiafoe.
Tableau. Mais oui, mais il a déjà éliminé Fritz, donc
voilà. Tableau ouvert.
Tableau est grand ouvert.
Oui, grand ouvert.
Maintenant, ça veut pas dire qu'ils sont en demi.
Attends, de l'autre côté, il y a Zverev, il y a Djokovic, il y a Alcaraz. Mais non, mais il est dans la partie de Sinner.
Il parlait de montagne russe tout à l'heure, Christophe, c'est ça avec lui. Tu sais pas ce que c'est fabuleux ce qu'il a fait. Moi, on est admiratifs tous. Là, on va pas remettre en question sa victoire. Mais il nous a tellement habitués à faire à monter des up and down que tu sais pas.
Attends, mais c'est à 38 ans, il fait une demi-finale de Grand Chelem.
Mais oui, mais il y a le paramètre, la fatigue, le soleil.
On est en 8e, là.
Il y a plein de choses. Non, mais il y a plein de choses. Il te dit Musetti, en plus, en conférence de presse, il m'a toujours mis les branlés. Donc, je veux dire, Musetti, s'il gagne là, tu te dis, bon, d'accord, il va faire.
Oui, mais c'était sur Terre, Denis.
Ah bon, mais d'accord. Mais il va aller en finale. Voilà. Moi, je mets une pièce. Écoute, je vais regarder notre partenaire et je vais mettre une pièce.
Est-ce qu'il pourrait être favorisé là par l'horaire, parce qu'on sait que jouer un peu plus tôt dans la journée avec les chaleurs, le taux d'humidité, c'est extrêmement compliqué pour la récupération. Est-ce qu'il peut jouer le soir tard, notre ami Gaël Monfils, Eric?
Ouais, en gros, ça va être une chance sur deux, je pense qu'il aura, il aura une chance sur deux de jouer en night session, soit sur la Rod Laver Arena. La Rod Laver, c'est pas possible parce qu'il y a Sinner et Demineur qui monopolisent la Rod Laver, mais sur la Margaret Court, il peut très bien avoir la night session lundi. Et là, c'est très bien.
Alors,
la chaleur, t'as vu, il l'a bien maîtrisé aujourd'hui, hein, parce que c'est Fritz qui tirait la langue à la fin du match. Hein.
Il y a un autre Français, on l'oublie pas, c'est Hugo Humbert. Demain, en 8e de finale, un autre énorme choc face à Zverev. Hugo Humbert, il y a une petite chance, une petite ouverture ou non, Eric?
Si on se souvient de la finale de Bercy où il est pris 6-2-6-2 en 1h15, bon, on se dit que ça va être compliqué. Mais il va jouer sa chance à fond.
Zverev joue le feu, non?
Zverev joue très très bien, ouais. Zverev. Ouais. Et il est programmé peut-être pour aller gagner enfin un chelem, mais Zverev, il est Ouais, il est dans.
Ah, tu mettrais une pièce sur Zverev, je suis sûr.
Bon, est-ce qu'on ferait bien un débat lundi matin dans les grandes gueules du sport bon, parce qu'on va, prolonger évidemment
lundi, l'histoire tellement
historique. Et est-ce qu'on sera toujours dans l'histoire lundi avec nos nos tennismen français?
Oui, ça restera une prouesse de sortir le numéro 4 mondial dans un grand chelem.
Et mon fils se qualifie pour les quarts. Voilà.
Ah oui.
Alors, mais là, on est dans l'historique. Là, on sera dans quoi alors?
Ah, oh, ça sera
très
t'arrives sur la lune là.
Ok, on remercie Cyril d'avoir composé le 32-16. Eric Salio, tu restes évidemment avec nous tout au long de la matinée. On a envie de connaître l'identité
du adversaire de Gaël.
Exactement.
2-7-1 Shelton et 5-4 Shelton au quatrième sans break.
Ok, Musetti, l'Italien, est en train de revenir donc dans cette quatrième manche, et puis on suit aussi le match de Sinner qui a débuté. Mais exactement, on veut un match en 5-7 et on veut voir Gaël Monfils en quart de finale. En tout cas, la nouvelle, et c'était important d'en parler dans cette émission, la nouvelle de ce matin, c'est donc la qualification pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie de Gaël Monfils. Bravo Gaël, vous l'entendrez de nouveau dans cette émission. Allez, dans quelques instants, on s'en fout pas. Le sport français notamment, choqué par la baisse prévue du budget des sports. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Dans l'histoire et dans l'histoire du rugby,
les grandes gueules du sport.
Bon, il les remet dans le match. C'est tout à l'honneur. C'est tout à son honneur. Comment dire?
Jean-Christophe Drouet.
Mais les GG sont bien réveillés ce matin. Rassurez-vous, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Sarah Pitkowski.
Reprend des trucs des années
20. Marc Maggio.
Reprend des extraits.
Non, mais
des grandes gueules du sport d'il y a 20 ans. Donc c'est un tricheur.
Oh, c'était il y a une semaine. On remercie Alban Azaïs, notre réalisateur, évidemment. Bravo. Dans quelques instants, le zapping des GG, restez bien avec nous, on s'en fout pas. Mais surtout, chers auditeurs, un jeu dès maintenant.
RMC, des vacances ou de l'argent?
C'est vous qui choisissez. Lundi 20 janvier, donc dans deux jours, c'est le Blue Monday, le jour soi-disant le plus déprimant de l'année, pas sur RMC en tout cas. Toute la journée, on vous offrira soit du cash, soit des vacances. C'est vous qui choisissez, à gagner jusqu'à 5000 euros ou un séjour clé en main à la montagne, à la campagne, à la mer ou alors sur la mer grâce à notre croisière en famille ou entre amis. Vous vous inscrivez en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16, ce sera lundi. Vous vous inscrivez maintenant.
Ce qui est terrible, c'est que nous, on n'a pas le droit de jouer. C'est-à-dire qu'on fait miroiter comme ça. Tu nous fais miroiter des vacances.
Mais tu peux être invité par la personne qui gagne.
Nous, quoi.
Mais c'est possible.
Oh.
C'est possible. Mais là où vous pouvez gagner, ce sont les GG contre-attaque. Ce sera dans une heure.
Ah ouais,
mes grandes gueules du sport, vous gagnez le privilège de nous parler de votre sujet qui vous a intéressé cette semaine. 20 secondes pour nous le vendre. Denis Charvet, tu veux nous parler de quoi?
Alors,
de
Neymar. Neymar avec sa fin de carrière, le malaise qui se passe en Arabie Saoudite, puisqu'il n'a pas été pris dans la liste des joueurs pour la
deuxième partie de saison.
Deuxième partie,
il est mis dehors.
Ce qui veut dire qu'il va partir, évidemment. Mais puis il y a la déclaration de l'entraîneur qui dit qu'il n'a plus le niveau. Et moi, ça me fait mal, mon petit cœur, parce que j'adore Neymar.
Et Neymar a parlé d'Mbappé aussi cette semaine. Hein. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Tu veux nous parler de Neymar? Ok, Sarah Pitkowski.
Moi, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Parce qu'il est fort possible qu'on n'ait plus besoin de coach dans tous les sports grâce à ChatGPT. On peut avoir les tactiques. On rentre ce qu'on veut, on peut avoir les tactiques et savoir exactement comment on peut jouer contre un adversaire, que ça soit en sport co ou en sport individuel.
Il fait les causeries aussi, ChatGPT là.
Alors, il fait pas les causeries, mais je peux te dire que les tactiques qui sortent.
Est-ce qu'on peut trouver des arguments pour mettre minable Denis Charvet aussi?
Je peux essayer.
On va essayer.
Tu essaies, tu arrives.
Très bon débat proposé par Sarah.
Pas besoin d'intelligence pour te mettre minable.
Marc Madiot, tu veux nous proposer quoi?
Ben moi, je continue, je persiste et je signe. Ben si.
Ah, oui, d'accord.
Si.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Si, je n'y suis pas parvenu en 2024.
Oui, c'est vrai.
J'espère avoir mon débat en 2025 pour qu'on prenne enfin conscience de la nocivité de ce personnage.
Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, dis-moi?
Il m'a rien fait, mais.
Il y a un truc, là.
J'aime bien.
Jusqu'au jour, il va être invité à aller boire un apéro comme avec Lucien Riquet.
Non.
Alors, attendez, vous savez quoi, chers auditeurs? Votez pour Briatore, comme ça au moins ce sera fait une fois.
J'y parviendrai.
Bravo, Marc. Christophe Cessieux, ton débat.
Moi, je vais vous parler des provinces sud-africaines. Je pense qu'il faut les virer. Elles n'apportent rien dans cette Champions Cup et elles ne viennent
avec
l'équipe réserve. Déjà qu'on a des impasses en top 14, maintenant les impasses en Champions Cup, ça sert à quoi?
Donc, à rien.
Dégagez-moi okay. tout ça.
Ben voilà, vous avez quatre très bons débats. C'est vous qui votez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et on en parle évidemment à 10h45. C'est dans une heure. Vous avez une heure pour voter tranquillement pour votre débat
Somme
préféré.
Que je vais gagner.
Allez, tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est évidemment le sport français choqué par la baisse prévue du budget des sports. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
On ne s'en fout pas.
Marc Madiot.
On ne s'en fout surtout pas.
Surtout pas. Sarah Pitkowski.
Bah non, on s'en fout pas. Non,
Denis Charvet.
On s'en fout pas.
Alors, c'était une indignation générale. Le monde du sport a exprimé sa colère. C'était jeudi après qu'un amendement au budget 2025 a été déposé au Sénat pour couper 34 millions d'euros supplémentaires sur le budget dédié au sport, seulement 6 mois après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Deux champions français sont notamment montés au créneau. Teddy Riner, Léon Marchand. Voici ce qu'a déclaré Teddy Riner. Après 7 années de préparation, nous avons vécu des Jeux Olympiques extraordinaires, laissant un héritage marquant à l'international et surtout pour l'avenir de notre jeunesse. Pourtant, à peine les Jeux terminés, le budget pour le sport chute de 33%. Le comité olympique français a envoyé un communiqué, les fédérations de foot, de rugby également. C'est inadmissible pour l'ex-ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Alors sachez que finalement, jeudi soir, le Sénat a repoussé cet amendement. Mais en tout cas, tout le monde est monté au créneau. Marc Madiot.
C'est terrible. Alors, j'avais eu peut-être la naïveté de penser ou de croire que l'engagement des politiques au moment de la candidature des JO de Paris devait permettre la promotion du sport dans la vie des Français. Au lendemain des Jeux, on nous a chanté et vanté la même chose et quelques mois ou quelques semaines qui suivent, on est à l'abandon presque total. Donc il y a quand même un souci. Alors je sais qu'on est dans une situation économique délicate, qu'il y a des coupes qui doivent être faites, mais 33% c'est quand même un peu lourd.
OK. On a
c'est 33% de 0,2% du budget de la France. Hein.
On a bien compris que les Jeux étaient passés. C'est au cas où vous l'auriez pas compris. On s'est bien amusé, mais maintenant place aux choses sérieuses. Et pour les politiques, le sport n'est pas une chose sérieuse. On vous a donné ce qu'il fallait pour obtenir des médailles, vous les avez eues. Maintenant, il n'y a plus de sous. Alors, et quand il n'y a plus de sous, qui est-ce qui trinque les premiers? Eh ben, c'est le sport et la culture. Alors, ça peut se comprendre si je vous dis j'ai 10 euros dans la poche. Voilà, il me reste 10 euros pour finir mon budget.
Qu'est-ce que tu as, toi?
Vous préférez que je les donne à qui? Aux infirmières et aux hôpitaux qui vont vous soigner. Vous préférez que je les donne aux enseignants qui s'occupent de vos enfants et qui essayent de monter le niveau de la France. Vous préférez que je les donne aux soldats qui protègent notre pays de Poutine et tout ça. Bon, là, il me reste 1 euro. Qu'est-ce que je fais? Je reprends aux instituts, je reprends au système de santé, je reprends aux soldats. Qu'est-ce qu'on fait?
Non mais
la situation dans notre pays mais donc, est catastrophique.
On est d'accord,
en
Christophe.
Mais
tu la prends pas.
Cette conséquence, ou en tout cas ce qui est annoncé, est incohérent avec ce qu'on nous a promis.
Mais non, mais les promesses électorales, tu crois encore au Père Noël à ton âge?
Tu candidates pas pour des JO 2030 où tu vas pas pouvoir investir sur des sportifs.
Mais si, parce que c'est peut-être la seule manière d'essayer d'arriver à convaincre les politiques qu'il faut un peu donner des sous, parce qu'autrement, t'es ridicule. Si dans tes Jeux Olympiques t'arrives pas à gagner une médaille, donc c'est la seule manière qu'on ait des sous. On a bien vu les Jeux, il y a eu des budgets, il y a plus de Jeux, et ben tout ça passe.
C'est entendable ce que dit Christophe, et je sais que les GG en ont parlé cette semaine, c'était hier. À un moment donné, il faut trouver de l'argent.
De l'argent.
On est tous là pour défendre le sport.
Mais pas de l'argent public.
Mais à un moment donné, prend pas assez en considération par rapport au sport, c'est que le sport est aussi une activité économique. Le sport fait rentrer des devises.
Oui, mais c'est une échelle, c'est très peu.
Oui, mais certes, mais il y a quand même des gens qui vivent du sport et qui travaillent dans
le
sport.
Oui, le sport professionnel. Le sport professionnel n'a pas besoin de subventions publiques, ou très peu. Je veux dire, le foot, il vit en lui-même. Le rugby, il vit par lui-même. Le vélo professionnel, il vit par lui-même.
Non. Les événements sportifs sur le sol français génèrent une économie. Elle fait travailler un certain nombre de personnes.
C'est le Tour de France qui génère l'économie.
Non, mais il n'y a pas que le Tour de France.
Non, mais c'est le Tour de France qui, grâce arrive à financer les autres courses.
C'est pas des milliards. La Coupe du Monde
de rugby l'organise.
Il en organise
un paquet quand même.
Il faut aussi comprendre que cette baisse de budget, elle ne touche pas que le sport, parce que c'est le sport et la vie associative et la jeunesse. Donc en fait, aujourd'hui, on baisse aussi le budget pour la vie associative, pour la jeunesse. Où sont nos priorités? Comment se fait-il que le sport ne soit pas encore une valeur ajoutée pour
parce que
pour
ça
la santé,
parce que
mais pour la santé,
oui, c'est bien la santé, mais quand les gens n'auront plus rien à manger, que les mesures électorales, c'est surtout la sécurité, il y a que ça qui intéresse les Français aujourd'hui. Et ben tu donnes dans ces budgets-là pour espérer derrière être élu. Tu vas pas être élu parce que t'as donné 3 francs 6 sous au sport.
On est d'accord, mais ils sont déjà élus. Donc
mais non, j'essaie d'avoir un discours réaliste. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est scandaleux. Mais aujourd'hui, on est dans une telle situation que les mecs sont obligés de faire des choix et que, vous le savez très bien, la dernière roue du carrosse en termes de budget, c'est le sport et la culture.
On n'est pas dans un pays de sport, la vérité.
Mais ce serait dans tous les pays du monde, ce serait la même chose.
Je pense que la France n'est pas un pays de sport.
Bon, on va suivre en tout cas le budget, hein, parce que ce n'est pas terminé.
Voyez un peu plus loin que le bout de votre nez, quoi. On est sportif, on ne donne pas de sous. Essayez de comprendre pourquoi.
Il y a déjà une coupe, qui sera drastique, mais là, cet amendement prévoyait 34 millions de coupes supplémentaires. Finalement, le Sénat a rejeté cet amendement, mais évidemment, le sujet n'est pas clos. Vous le savez, pour toute la France, on attend encore de voter un budget. Ce sera dans les prochaines semaines.
Il y en a ras-le-bol. On se fait enfiler, excusez-moi, depuis des années.
C'est énorme.
C'était du David Douillet qui n'est pas en direct avec nous. Ouais, mais évidemment, nous avons l'intelligence artificielle qui est avec nous en régie, qui réalise cette émission et qui, à tout moment, on voit une grande gueule du sport qui n'est pas présente avec nous ce matin. Bon, j'avais d'autres informations à vous donner. On en parlera demain, notamment l'imbroglio autour du transfert de Colomboigny. Ou encore bravo au biathlète français et le relais masculin qui a obtenu une 3e victoire de suite. C'était du jamais vu dans l'histoire du biathlon français. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de rugby. Hugo Oradou, Oscar Gédou, retenu par Fabien Galthié. Malaise ou pas malaise, c'est un 2 contre 2, c'est le bras de fer des GG. Si vous venez tout juste de vous réveiller, sachez que Gaël Monfils a réussi l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale de l'Open d'Australie en battant Taylor Fritz. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.